La joie ennemie de Kawther Hadimi, lu par elle-même. En 1958, mon père a 5 ans et il aide parfois le sien à filtrer la laine pour en extraire les impuretés, puis l'observe confectionner le burnous sur le métier à tisser. Chaque vendredi, il accompagne mon grand-père à la mosquée où celui-ci enseigne l'arabe et fait réciter le Coran aux enfants du quartier, privés d'école, à qui il interdit de jurer sur le livre saint, geste considéré comme trop sacré pour être banalisé. Dans toute la région, Saïd est connu pour posséder un don rare, celui de guérir de la rage. Pour cela, il trace à la plume des formules secrètes sur 7 dates pendant 7 jours. On vient de loin le supplier d'intervenir, de sauver un proche, mais il ne s'exécute qu'à contre-cœur. Ce don l'encombre et l'inquiète. Il ne l'a jamais désiré et il espère ne l'avoir transmis à aucun de ses enfants. L'un des frères de Saïd, l'oncle de mon père, a lui hérité d'un autre type de pouvoir. Il est d'une beauté stupéfiante, personne ne peut soutenir son regard. Ses yeux bleus traversent, bouleversent, désarment. Il vous fixe jusqu'à vous faire perdre vos mots, vos certitudes, votre équilibre. Si l'oncle se déplace avec difficulté parce qu'il souffre d'un mal inconnu, nombreux sont ceux qui jurent l'avoir vu léviter et converser avec les esprits. Surnommé le saint, il passe ses journées sous un figuier, immobile, absorbé dans sa contemplation. Une chose est certaine, il ne peut vivre seul, il habite donc chez mon grand-père. Une partie des hommes de la famille a rejoint l'armée de libération nationale. Les autres tiennent une petite épicerie depuis laquelle ils transmettent des renseignements. Mon père, encore enfant, sait qu'il ne doit jamais parler des armes qui transitent discrètement par le magasin, ni des hommes qui arrivent en pleine nuit dans leur maison pour dormir quelques heures ou être soignés par mes grands-parents avant de repartir. Quand il entend le grondement des avions français, mon père quitte la maison sans attendre, s'éloigne le plus vite possible avant que les bombes ne déchirent le ciel. Et si des militaires surgissent, il doit prendre des brassées de boue devant la maison et les apporter aux femmes de la famille pour qu'elles s'en maculent le visage, les bras, le corps. Elles espèrent ainsi éviter les viols. Un matin, l'armée française envahit la maison. Mon père et sa famille sont rassemblés devant, sous la menace des fusils. Ma grand-mère serre sa dernière nez contre elle. Les soldats explorent les pièces, saccageant tout sur leur passage. Ils cherchent deux cousins de mon père, accusés d'avoir rejoint le maquis. Un harki accompagne les troupes. Il traduit leurs ordres et leurs questions du français vers l'arabe. Un militaire s'approche de mon père, s'agenouille à son niveau et lui demande s'il sait où se trouvent ses cousins. Mon père secoue la tête. Le soldat retourne à l'intérieur et revient avec un petit livre à la couverture rose foncé et à la tranche vert sapin. Il le montre au harki et demande ce que c'est. « Un Coran », répond le harki. Le militaire esquisse un sourire satisfait. Il fait signe à mon grand-père d'approcher et lui ordonne de jurer sur le livre qu'il n'a pas vu les hommes recherchés. Le harki traduit. Mon grand-père s'avance lentement. Son visage est fermé. Ses traits sont tendus. Ses yeux brûlent de colère. Il tonne. « Tu ne crains donc pas Dieu ?» Le harki baisse les yeux, saisi par le regard flamboyant de mon grand-père. Troublé, il hésite. Ses lèvres remuent comme s'il cherchait ses mots. Il finit par murmurer quelque chose au militaire. Puis, d'un geste lent, il rend le Coran à mon grand-père. Les soldats repartent, laissant derrière eux une maison dévastée. Ce Coran repose aujourd'hui dans ma bibliothèque. À travers les années, les villes, les départs et les retours, il est l'un des rares objets que j'ai conservés.